L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Bonjour et bienvenue dans l'Atelier des médias. Nous ouvrons aujourd'hui notre série de rediffusion d'été avec un entretien que nous avait accordé le journaliste Denis Robert en novembre dernier. Denis Robert est une des figures du journalisme d'investigation en France. Il s'est engagé depuis plus de 20 ans contre les dérives de la finance et des banques. En 2013, il a publié un récit autobiographique, Vue imprenable sur la folie du monde, où il revenait longuement sur sa carrière. Nous l'avions reçu dans l'atelier. À cette occasion, nous avions également évoqué avec lui la série documentaire consacrée aux nouvelles tendances du journalisme, Journalisme 2.0, diffusée en juillet 2012 et dont il est le co-auteur. Vue imprenable sur Denis Robert, c'est la première rediffusion de l'atelier cet été. Un entretien à retrouver comme toujours sur le site de l'Atelier des médias avec des liens et des informations complémentaires.
RFI.
C'est une des figures françaises du journalisme dit d'investigation. Je dis dit d'investigation car pour beaucoup cette formule est un pléonasme. Pendant 12 ans, de 1983 à 1995, il a travaillé pour Libération. Il était le correspondant de Libération dans l'Est de la France où il vit toujours. Il s'est rendu célèbre en 1996 en publiant un livre au titre limpide « Pendant les affaires continuent » consacré aux malversations politico-financières, un sujet qu'il continuera à suivre se rendant plus célèbre encore par ses révélations sur la multinationale Clearstream, auquel il a consacré plusieurs livres et des films. Une affaire qui l'occupera près de 10 ans. Il y aura aussi une affaire dans l'affaire à laquelle certains voudront le mêler, celle des fausses accusations liées à la manipulation de fichiers clients Clearstream, toujours. Procès, condamnation. Il affirmera en 2008 qu'il jette l'éponge, qu'il arrête d'enquêter sur cette firme et ses méthodes douteuses. En parallèle de son travail journalistique, qu'il décline déjà en film, en livre, sur un blog, Denis Robert, vous aurez compris qu'il s'agit de lui, est également auteur de plusieurs romans et il est aussi plasticien. Il vient de publier un livre, Vue imprenable sur la folie du monde, un récit très intime qui s'ouvre sur une période d'improductivité, impossible d'écrire une ligne pendant des mois, juste après une annonce qui aurait pourtant dû le libérer, sa victoire judiciaire contre la multinationale Clearstream qu'il avait poursuivi et avait même réussi à un moment à le faire condamner pour son travail d'enquête. Bonjour Denis Robert.
Bonjour.
J'imagine que vous souhaitez préciser certains des aspects de cette présentation, non ?
C'est l'histoire de célébrité, quoi. C'est vrai que pour moi, c'est pas vraiment un but du tout, mais c'est vrai que cette affaire Clearstream, c'est comme le scotch du capitaine Haddock, quoi. Mais je la rejette pas puisque j'ai gagné intégralement, quoi. Et la toute petite modif, c'est que j'ai été correspondant de Libération au début. C'était d'ailleurs une période formidable puisque j'étais complètement libre. J'étais avec mon chien à ma voiture. C'était un peu Tintin en Lorraine, quoi.
La 4L.
J'écrivais sur tout. C'était génial. J'ai vraiment adoré écrire pour Libé, c'était quand j'en reparle un peu dans le bouquin, c'était un peu la préhistoire, quoi, puisque j'étais en plus un des derniers à Libé à dicter mes papiers avec des sténos qui les prenaient, tout ça. Enfin, quand on raconte ça aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un vieux con.
Vous avez parlé, je voulais en parler plus tard, mais vous avez mentionné le fait que vous couvriez des faits divers à cette époque-là.
Ouais.
Et bah c'est un fait divers célèbre qui s'est passé à ce moment-là, qui vous poursuit encore jusqu'à maintenant. Vous en parlez dans le livre. C'est l'affaire du petit Grégory.
Ouais. Et il y a pas, franchement, il y a pas 6 mois dans ma vie depuis où il y a pas ou un producteur ou un journaliste ou je sais pas qui m'appelle là-dessus en me disant voilà, il faudrait, et j'ai vraiment plus envie parce que tout a tellement été dit, mais ça a aussi été une école incroyable.
Vous avez déclaré, ça c'est sur la fiche Wikipédia, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a autant de collègues qui vous appellent, la fiche Wikipédia de l'affaire Grégory.
Il faudrait que je la regarde, cette
fiche. Vous avez déclaré, s'agissant de cette affaire, qu'elle incarne ce qu'il y a de pire dans tous les dysfonctionnements de l'appareil médiatico-judiciaire.
C'est vrai. J'étais pris dans un espèce de shaker à ce moment-là. Il y a un livre d'ailleurs qui est formidable, qui s'appelle Le bûcher des innocents, de Laurence Lacour, qui raconte un petit peu toute cette histoire. Laurence a passé énormément de temps sur ce dossier. Et je pense que c'est, pour moi, c'est le point final de l'histoire. Après, il peut peut-être encore se passer des choses avec l'ADN, avec tout ça. Mais en tout cas, moi, j'ai plus envie d'en parler. Mais j'ai résisté à cette tempête, quoi. C'est-à-dire que, contrairement à des tas d'autres journalistes qui avaient fait ce travail, j'ai jamais pris parti. J'ai compris assez tôt que l'intérêt du fait divers tenait aussi beaucoup à sa médiatisation. Donc j'étais toujours à 10 mètres derrière la meute, et ce qui m'a permis d'écrire, d'avoir des contacts avec les avocats des deux camps, d'avoir des contacts avec le parquet, etc. Après, je me suis évidemment forgé une opinion, mais mon travail journalistique était très particulier dans cette histoire, ce qui fait que j'ai résisté, parce qu'il y a des types qui sont devenus fous, qui... Il y en a qu'on a retrouvé en HP, il y en a qu'on a retrouvé... Enfin, il y a eu tellement
HP, c'est hôpital psychiatrique.
Oui, il y a eu tellement de dérives.
Je rappelle simplement pour nos auditeurs trop jeunes ou ceux qui n'auraient pas suivi cette actualité qu'il s'agissait de l'assassinat d'un jeune enfant
en
1984. et juste un mot sur ces dysfonctionnements médiatiques liés à cette affaire. C'est quoi ? Il s'agit de quoi
Il s'agit des liens entre les avocats et les partis, des liens financiers. Il s'agit de la manière dont les journalistes, pour se faire de l'argent, inventent des histoires complète, où vont acheter des cadeaux, les mettre sur des tombes, photographier les tombes. Il s'agit, in fine, quand même, ça a fait la mort d'un homme, quoi. C'est-à-dire qu'on va lire les PV d'instruction au père de l'enfant assassiné. Dans ces PV, il pense que son cousin, Bernard Laroche, est, tu vois, j'en reparle encore, et s'est fait buter. Enfin, et lui va
responsable,
le tuer, quoi.
Et du coup, il va aller tuer
complètement
Bernard.
Aujourd'hui, Jean-Marie Villemain a beaucoup de recul par rapport à tout ça. J'imagine qu'il regrette évidemment son geste, mais il a été monté comme, je pense qu'à sa place, j'aurais peut-être fait pareil, quoi. Je veux dire, faut s'imaginer de vous perdre un enfant, et puis les journalistes vous lisent des PV où on est, c'est celui-là l'assassin, le type est en liberté, ça rend fou, quoi. Et ça, c'est les journalistes. Bon, c'est une des dérives, sans doute la plus grave, puisqu'il y a mort d'homme au final, quoi. Et c'est un fait divers vraiment sociologiquement et professionnellement intéressant, parce que franchement, quand j'avais quel âge, j'avais 25 ans, c'était, mais j'étais pas embauché encore à Libé, j'étais embauché grâce à ça, parce que je leur coûtais tellement cher en pige qu'ils m'ont filé un salaire, tellement j'écrivais là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier, j'ai appris le rapport, enfin j'ai tout appris au bord de la Vologne.
Cet entretien est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Au mois de juillet dernier, vous avez consacré 4 documentaires et un web documentaire au journalisme. Ça s'appelle ouais. Journalisme 2.0, enquête sur le néo-journalisme. Nous avions voulu, bien évidemment, vous inviter pour en parler, mais il n'est jamais trop tard. On n'a pas réussi à se retrouver à ce moment-là. On se rattrape maintenant. Avant d'explorer cette œuvre, donc, qui nous intéresse particulièrement, je veux bien qu'on parle un peu de votre dernier ouvrage, Vue imprenable sur la folie du monde. Ça commence sur une sorte de longue angoisse de la feuille blanche à la suite d'une nouvelle qui normalement aurait dû vous libérer, celle du fait que vous étiez blanchi par la Cour de cassation en France.
Le livre commence sur une scène où je suis à mon bureau en train de faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire réfléchir et être sur le point d'écrire quelque chose. Et à la télévision, il y a Cahuzac, il y a toutes ces... Et puis il y a des enfants qui jouent dans la cour et qui sont très très violents. Et qui portent des déguisements de soldats américains. Et moi, j'ai un espèce de réflexe quand je vois qu'un objet ou quelque chose, c'est une déformation professionnelle. Je sais que, par exemple, le casque G.I. Joe de mon fils vient de la multinationale Hasbro, qui est producteur de cinéma, qui produit des jouets, etc. Puis ça me fait penser à MacArthur, le général américain, qui a sa figurine Hasbro. Et c'est toute la stratégie américaine qui consiste à faire des films et à faire de la guerre une œuvre de commerce, quoi.
Et toutes les multinationales
voilà.
qui sont derrière.
Et quand je vois
Voilà.
Et donc je fais des ramifications comme ça et tout. Et donc c'est le début de l'histoire et je pars avec mon fils en une sorte de voyage. Je vais pas très loin, je vais dans la vallée de la Fensch, dans le bassin Houillé. Et à travers l'histoire de ce pays, les rencontres que je fais, c'est un voyage dans le temps. Et un voyage dans la géographie aussi, puisque je me souviens de l'appel de Genève. Je vais beaucoup, j'ai une fille qui vit à Brooklyn, je vais beaucoup aux États-Unis, donc je fais des parallèles entre la France et les États-Unis. Et le fil rouge du film, c'est cette relation avec mon fils. Et c'est l'histoire d'une transmission. Et mes blocages viennent effectivement de Clearstream. C'est-à-dire que, après ma victoire sur Clearstream, c'était une tension permanente pendant 10 ans.
Une victoire qui date de février 2011, le 3 février.
Voilà, la Cour de cassation en février 2011 et la Cour d'appel de Lyon pour l'histoire du préjudice en novembre. Et donc, je gagne tout. Je gagne, il y avait 27 points diffamatoires, j'ai gagné 27-0. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, j'avais raison sur tout. Et tout ce qui est dans mes livres et dans mes films peut être repris. Vous pouvez dire aujourd'hui qu'il y a des banques mafieuses dans Clearstream. Vous pouvez dire que, ils font faisant de la dissimulation pour des sociétés offshore. Vous pouvez dire qu'il y avait de l'effacement industriel de transactions dans leur système informatique. Vous ne serez pas poursuivi en diffamation, puisque les arrêts de la Cour me protègent et vous protègent aujourd'hui. Puisqu'après 10 ans de procédure, quand même, on peut dire que c'est du béton armé maintenant. Le truc, c'est que je peux dire ça, et vous prenez votre casse et vous faites sans borne, vous allez sur le plateau du Kirchberg à Luxembourg, et vous avez Clearstream, en gros, qui continue à bosser comme si rien n'était, quoi. Donc, cette situation, ce paradoxe, était assez bloquant pour moi. À un moment donné, j'ai sans doute, dans ma difficulté à écrire, il y a ça, et il y a aussi le fait qu'un de mes livres a été interdit à la vente, a été retiré des mains des lecteurs dans un silence absolument total. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis retrouvé dans une galerie d'art assez facilement. Donc tout ça a dû jouer dans ma tête, et j'ai eu beaucoup de mal à... Parce qu'un livre, je voulais absolument pas faire un livre de plus, quoi. Pour ça, ça a mis 3 ans. Donc, j'avais pas envie de, dans la production littéraire et de ni d'écrire un essai, ni un récit, ni un roman, comme j'ai pu le faire et tout. Donc, j'avais un vrai problème de forme. Et la forme de Vue imprenable, ça a été mon plus gros travail, quoi. C'est-à-dire cette espèce de fil entre le réel et la fiction. C'est vraiment un livre c'est un livre qui a du mal, quoi. C'est pour ça que j'en parle, je suis content d'en parler. Il est sorti il y a 3 semaines. Et c'est un livre qui a du mal. Parce que alors sur internet ça buzz, les blogueurs en parlent, etc. Mais alors ces connards de la presse là sont complètement ensuqués dans leur page littéraire à la noix. Ils vont faire 50 000 papiers sur Dormesson, ils vont faire des, et quand vous débarquez avec un bouquin comme ça,
un hybride en fait qui rentre pas dans les cases,
et je vois la paresse. Et là, alors ils sont pas tous cons et paresseux, mais beaucoup, quoi. Je suis effrayé par ça. Et donc, ouais, je suis content d'en parler parce que, j'en parle pas souvent, quoi.
C'est un livre, en tout cas, très intime, qui revient sur, qui fait un peu un bilan de votre carrière, qui alterne entre une sorte de road movie, comme on dit, ou de voyage avec votre fils, et une période de bilan. Vous l'avez évoqué, vous vous souvenez de l'appel de Genève, donc qui rappelle votre implication dans la lutte contre les paradis fiscaux, on peut dire, c'est ça?
Ce qui se passe, c'est que, avec Cahuzac et avec
Jérôme Cahuzac, ancien ministre français qui a été pas encore condamné, mais on a pu prouver qu'il avait un compte en Suisse, quoi.
Ouais. Et quand j'ai entendu Moscovici ou François Hollande parler des paradis fiscaux, de la lutte, des moyens qu'ils allaient mettre en œuvre, de la nécessité de diffuser les informations entre juges, etc. C'était mot pour mot le propos de l'appel de Genève qu'on avait lancé 17 ans plus tôt. Donc il y a une espèce, je me suis senti un peu écrasé par ça, quoi, en me disant mais ces mecs comprennent rien, quoi. D'autant que j'ai fait une note à François Hollande pendant la campagne, d'autant que je les ai tous ou rencontrés ou côtoyés, et je leur ai expliqué un peu comment ça marchait, parce que souvent ce sont des ignares sur ces questions-là, et voilà, quoi. Et donc j'ai un chapitre qui s'appelle François Hollande, qui est pas très tendre avec lui, et parce que je j'ai jamais cru qu'il allait tout bouleverser, mais je pensais qu'il en ferait un peu plus, quoi. En tout cas, ils l'ont fait déjà un peu, parce que j'ai un autre chapitre qui s'appelle Nicolas Sarkozy, l'homme de Goldman Sachs, et donc j'essaie de le remettre à sa place, lui à la place qu'il lui mérite, c'est-à-dire c'est le petit facteur de Goldman Sachs, quoi. Quand on
Goldman
voit
Sachs, qui est une firme spécialisée,
voilà,
dans la
qui
finance.
Est la banque, c'est une banque d'affaires qui a coulé la Grèce, qui est la banque qui nourrit le plus les traders et les rapaces de la finance, et qui chaque fois que le télégraphiste Sarkozy va à Londres ou à New York, il va leur faire une petite conférence pour 100 000 dollars, et donc il est content, il est fier, il est des fois accompagné de son ministre Barouin qui doit s'en prendre un peu au passage. Tout ça se fait au vu et au su de tout le monde. Bon, après il y a toute la campagne de com et tout ça, mais il faut pas oublier que ce type, ça n'est avant tout que ça. C'est-à-dire, au départ, c'est un homme de la finance. C'est à mes yeux, un pantin de, c'est-à-dire qu'il est complètement la marionnette de ses banquiers. Et je pourrais le prouver de 1000 façons, quoi. Alors après, il y a le vernis qu'on met autour, les campagnes politiques et tout ça, ou les films qui passent à la télé avec sa nana qui joue à la guitare, qui peuvent faire, le peuple peut être séduit par ça. Mais au fond, quand on réfléchit bien, et dans ce chapitre sur lui dans le livre, j'essaie de bien réfléchir réfléchir, parce que moi en plus j'ai aucune animosité ni haine par rapport à la personne, je m'en fous, mais j'essaie de voir en tant que de ce qu'il représente dans le système, quoi.
Vous décrivez un monde qui a cédé au pouvoir et à la perversion de l'argent, et des paradis fiscaux en général, un monde assez désolé, un monde aussi, une région, la Moselle, désindustrialisée, où les petits métiers, où les industries aussi du textile ont déserté.
Et ouais,
où...
c'est ça, c'est-à-dire que c'est très parti. Alors, c'est l'idée d'ailleurs de la, vous savez, la métaphore, je crois que c'est un japonais, c'est la goutte d'eau et la mer. À travers une goutte d'eau, vous racontez la mer. À travers la Moselle, vous racontez la folie du monde. Et en Moselle, et en Meurthe-et-Moselle, enfin, disons en Lorraine, c'est une région très particulière par son histoire récente, parce qu'en 30 ou 40 ans, on a subi le plus de plans sociaux, de licenciements, de promesses politiques non tenues. C'est-à-dire que moi, je voyage pas mal en France, j'étais récemment en Charente, c'est une région très pauvre, qui vit de la chaussure ou des savates et des trucs comme ça. Il y a un niveau de pauvreté important, peut-être plus important qu'en Moselle, mais où je vais dans le nord de la France, bon, en Lorraine, il y a quelque chose de très particulier qui tient à la crise de la sidérurgie, qui tient à la crise de la mine, qui tient à la guerre.
Qui tient à la disparition de l'industrie textile.
Voilà, la disparition du textile. D'ailleurs, je retrouve un rapport du Sénat dont je parle dans le bouquin. On enlève textile, on met automobile, sidérurgie, etc. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est la preuve, si on fallait une de plus, que les rapports des commissions sénatoriales, et je viens là d'aller au Sénat pour parler sur la commission qui s'occupe de la finance, ne servent à rien. Elles servent à alimenter une espèce de vie politique, mais elles sont rarement ou pratiquement jamais suivi des faits.
Et c'est finalement un livre assez pessimiste, assez triste, où beaucoup de vos combats ont finalement abouti vers un échec, un monde qui n'a pas écouté, qui passe son temps à répéter « nous allons faire, nous allons réagir », mais où en fait la réaction, on la voit pas venir. Mais en parallèle, il y a l'innocence un peu de votre fils que vous accompagnez, qui lui découvre le monde, et du coup il y a cette forme d'optimisme.
Ouais, c'est-à-dire, je pense beaucoup à lui quand j'ai...
Qui s'appelle Woody. Hein,
il s'appelle Woody, c'est pas son vrai nom dans la vie, mais... Et donc j'ai tout ce que je raconte dans le livre, y compris les histoires mafieuses de la fin, où on veut faire sauter ma voiture, où on me fait des propositions bizarres et tout, je n'ai strictement rien inventé. J'ai simplement, comme dans le Gonzo journalisme, transposer des situations. Quand je passe une soirée à fumer des pétards avec un prof où on parle de pornographie, de choses comme ça, c'est pas son vrai nom, c'est deux histoires en même temps. Quand à la fin, je raconte que mon oncle m'emmène voir un mafieux, j'ai effectivement un oncle qui habite à Rosslange, etc., mais il connaît pas de mafieux. C'est un autre mafieux que j'ai rencontré par ailleurs. Enfin, etc. Mais tout est vrai. Et c'est surtout à la fin du film. C'est-à-dire que j'essaie de sauver mes cousins de la fin du livre. C'est marrant parce que j'ai tout des tas d'images qui me viennent, et par rapport à des types comme le baron Sellière, par exemple, qui aujourd'hui au musée de Metz, vous avez son nom, parce qu'il a
dirigé le syndicat des patrons.
Voilà, et qui était surtout l'héritier de la famille de Vindel, et qui aujourd'hui, contre 1 million d'euros, il a son nom en gros sur le musée de Metz, alors que ce type est quand même un des plus gros vampires. Il a sucé le sang de tous les travailleurs de mes grands-parents qui ont bossé dans les mines et tout ça. Il s'en est mis plein les fouilles, et quand il a compris que, ben, il pourrait pas rivaliser avec des types comme Mittal ou des gens comme ça, il a investi ailleurs, il a acheté d'autres trucs, et il a rincé tout le monde, quoi. Et là, comme pour ses bonnes œuvres, il nous lâche 1 million d'euros, il faudrait qu'on le félicite. Et il y a tout un tas de petits moutons de panurge là, qui ont dit « Oh, c'est formidable, ce type est pas formidable du tout ». On se moque des oligarques russes, mais il est pire, quoi.
Un fils que vous surentraînez au journalisme, vous lui dites « Ne t'arrête jamais aux premières réponses, continue à poser des questions par la suite ».
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus à ma fille que je dis ça, parce qu'elle a eu la mauvaise idée de vouloir être journaliste. J'essaie de la dissuader en lui disant que c'était vraiment un métier difficile. En même temps, je suis très content.
C'est une scène, je crois, où vous visitez un endroit où il y a des singes dans la région.
Ah oui, c'est ça. Oui,
il pose une question et il repose d'autres questions derrière parce qu'il est...
Oui, peut-être. Oui, alors c'est avec Woody, puisque dans la vraie vie, il s'appelle Nel. Mais la difficulté, c'est très compliqué d'être père. La difficulté est de protéger son enfant. Mais en même temps de l'armée. Et quand vous dites ça, la difficulté, c'est de, à la fois qu'il soit ouvert aux autres et qu'il soit généreux, mais en même temps qu'il soit méfiant. Et c'est toute la difficulté. Et moi, je veux qu'il soit comme ça, c'est-à-dire qu'il soit pas dupe, mais en même temps qu'il soit généreux, qu'il aille vers les autres, mais en même temps qu'il se fasse pas avoir. Et le monde qu'on lui prépare est un monde de chiens quand même. C'est une putain de jungle. Comment il va s'en sortir dans tout ça, etc. Et donc l'idée, c'est que je le veuille ou non, je suis un exemple pour lui. Donc il faut que je fasse gaffe dans ce que je lui dis, dans ce que je lui montre, etc. Mais bon, il se débrouille pas trop mal, quoi. Il est déjà il est plus fort que moi en football, en ordinateur, il se débrouille bien. Et puis après, je sais pas, il peut peut-être...
On marque une courte pause dans l'atelier des médias. Nous serons toujours avec Denis Robert de l'autre côté du Flash. À tout de suite.